un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Quelle place pour l'islam dans la laïcité française et en Europe ? C'était une des questions posées lors de ce troisième colloque organisé à l'Académie des sciences morales et politiques à l'occasion du centenaire de la loi 1905. Un colloque qui a réuni pas moins de 27 intervenants et qui avait pour thème général la séparation des églises et de l'État, telle qu'elle est définie en 1905, est-elle un modèle du genre ou une singularité ? La question se pose avec d'autant plus d'acuité que la France doit intégrer la composante musulmane de sa population, une intégration qui se fait parfois avec difficulté. Est-ce faute de comprendre l'interaction possible entre l'islam et la laïcité telle qu'elle a été conçue en France par la loi 1905 ? Nous avons sélectionné pour commencer une première intervention, celle d'Alain Grech, rédacteur en chef au Monde diplomatique, spécialiste du Proche-Orient. Il préside depuis 8 ans une commission Islam et laïcité qui regroupe une soixantaine de personnalités. Il est également l'auteur d'un ouvrage sur la question « L'Islam, la République et le Monde » publié chez Fayard. Alain Grech s'exprime sur l'islam et la laïcité en France et dans le monde musulman. On l'écoute.
Le thème de mon intervention, c'est l'islam et la laïcité en France et dans le monde. Et évidemment, la première question qui vient à l'esprit quand on parle de ce thème, c'est l'islam et la laïcité sont-ils compatibles ? Et la réponse qu'on entend le plus souvent est clairement non. Et je voudrais essayer d'expliquer qu'il n'y a pas de réponse à cette question, qu'on ne peut pas répondre à cette question et que cette question n'a pas de sens. Et je crois que c'est important d'y réfléchir. Et peut-être pour nous amener à réfléchir au non-sens de cette question, reportons-nous un siècle en arrière, au moment de la lutte sur la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et si on avait posé la même question, le catholicisme et la laïcité sont-ils compatibles, on aurait eu une réponse unanime des deux camps, non. Et je vais en donner deux exemples. Un qui est tiré d'un roman de Roger Martin Dugard qui s'appelle Jean Barois. Jean Barois est un propagandiste de la libre pensée. Et il fait une conférence dans laquelle il dit « Il n'y aurait pour l'Église qu'une seule chance de salut, évoluer afin de rendre ses formules acceptables aux consciences modernes. C'est pour elle une question de vie ou de mort. Si elle ne se transforme pas, elle provoquera infailliblement en quelques générations une désertion générale et définitive. » Et il ajoute « Or, je voudrais vous montrer qu'il est littéralement impossible que ces dogmes se modifient, si peu que ce soit. Je voudrais vous montrer que l'Église catholique est condamnée. Quoi qu'elle fasse, elle est fatalement vouée à une dissolution totale que l'on doit dès maintenant tenir pour inévitable et dont on pourrait presque fixer l'échéance. » Si j'ai cité Jean Barois et ce roman, c'est parce qu'il est très caractéristique de la pensée de beaucoup de gens qui défendent la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire, finalement, nous sommes dans une période de scientisme triomphant. Et petit à petit, la lumière des sciences va dissiper l'obscurité de la religion. Donc ça, c'est le thème de beaucoup de libres penseurs. En face, c'est le même refus de la laïcité pour des raisons de principe. Non seulement, comme vous le savez, en 1905-1907, l'Église refuse de mettre en œuvre cette loi de séparation de l'Église et de l'État, mais même en 1924, quand le pape Pie XI autorise finalement la création d'associations culturelles, c'est-à-dire normalise un peu les relations avec l'État français, quelques mois après, l'Assemblée des évêques de France adopte une résolution dans laquelle, que je vais vous lire, « Les lois de la laïcité supposent la méconnaissance totale de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Évangile. Elles tendent à substituer au vrai Dieu des idoles la liberté, la solidarité, l'humanité, la science, c'est ça les idoles, hein, à déchristianiser toutes les vies et toutes les institutions. Il ne nous est pas permis de leur obéir à ces lois. Nous avons le droit et le devoir de les combattre et d'en exiger par tous les moyens honnêtes l'abrogation. » Et dans une deuxième partie, la déclaration dit que l'Église peut adopter deux tactiques, l'une de conciliation, mais celle-ci n'est pas adéquate car elle habitue les esprits, fussent-ils sincèrement catholiques, à regarder comme compatibles avec la religion les lois de la laïcité, l'autre de confrontation, qui suppose, je cite, « sur tous les terrains, dans toutes les régions du pays, on déclare ouvertement et unanimement la guerre au laïcisme et à ses principes, jusqu'à l'abolition des lois ethniques qui en émanent, que pour réussir, on se serve de toutes les armes légitimes. » Et, comme vous le savez, l'Église catholique ne va entériner la laïcité que à l'issue de la Seconde Guerre mondiale de manière relativement prudente avant de l'entériner totalement. Or, comment se fait-il finalement ? On a vécu pendant 40 ans avec une église en France, catholique, qui refusait la laïcité. Et je renvoie tout de suite au débat sur l'islam. Aujourd'hui, on est dans une situation curieuse parce que les organisations musulmanes qui participent au Conseil français du culte musulman, qui sont les organisations les plus représentatives, ont depuis très longtemps accepté les lois de la laïcité. Et en même temps, elles sont sans arrêt soupçonnées de ne pas vouloir les respecter. Et je crois qu'une des raisons, de cette difficulté à répondre aux questions islam et laïcité, catholicisme et laïcité, c'est que on les pose à un niveau tellement général et tellement, je dirais, presque philosophique qu'elles n'ont pas de réponse. Notre problème n'est pas de savoir si la doctrine catholique est compatible avec une philosophie quelconque de la laïcité. Le seul problème que peuvent avoir des gens dans la République, c'est de savoir si l'Église catholique et les catholiques appliquent les lois de la République, y compris les lois laïques, qu'elles peuvent par ailleurs combattre d'ailleurs. Je veux dire, ça c'est comme on a le droit de combattre toute loi qui existe. Mais ce n'est pas du tout de savoir si le dogme catholique est compatible avec la philosophie de la laïcité. On peut avoir jusqu'à aujourd'hui des tas de discussions là-dessus. Et je dirais que pour l'islam, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir une discussion philosophique pour savoir est-ce que l'islam, comme religion, vision du monde, est compatible ou non avec la laïcité. Mais c'est encore une fois une question sans réponse parce que l'islam a connu, je vais le montrer, des évolutions très différentes, des interprétations très différentes, et comme le catholicisme a accepté des choses qu'il avait condamnées quelques décennies auparavant. Alors, quand on parle de l'islam et laïcité, et pour leur incompatibilité, il y a plein de lieux communs qui veulent nous démontrer qu'il y a une incompatibilité de principe. Un, c'est de dire, mais vous comprenez, la laïcité, on ne peut même pas traduire le terme en arabe. Pour qui a voyagé un peu en Europe, c'est que la laïcité, au sens français du terme, on peut le traduire dans aucune langue. En anglais, le sécularisme, je veux dire, il y a une très grande différence entre ce qu'on appelle sécularisme et laïcité. Donc l'idée qu'il n'y a pas de mot pour le traduire ne me semble pas très convaincant. En revanche, il y a un argument qui revient tout le temps, c'est l'idée que finalement l'islam comme religion est profondément différent de la religion catholique, puisque contrairement à Jésus, Mahomet fut à la fois un chef religieux et un chef politique. Alors que Jésus, dans une formule célèbre, disait « Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Je rappelle simplement pour ceux qui savent que cette formule, nous n'interprétons cette formule comme une formule de séparation de l'État et de la religion que de manière très récente. Elle n'a pas du tout cette signification dans le Nouveau Testament. Mais enfin, laissons ça de côté et essayons de nous arrêter à ça parce que je crois que c'est un argument qu'on entend souvent et qui revient très fréquemment. On pourrait rétorquer que le fait que le message catholique ou le message de Jésus était un message, soi-disant, de séparation, où la laïcité avait une place, n'a pas empêché, pendant des siècles, d'avoir des pouvoirs théocratiques ou des pouvoirs dans lesquels la religion jouait un rôle central. On peut aussi avancer le fait que, dans l'histoire de la prédication de Mahomet, vous savez, il y a deux parties dans sa prédication. Il y a une prédication qui commence à la Mecque avant son exil et qui dure 10 ans, et la prédication qui est à Médine, quand il constitue la communauté des croyants et donc quand les musulmans deviennent une communauté et donc un État en formation, que quand vous voyez le Coran, il n'y a pas de différence fondamentale, il n'y a pas eu une rupture fondamentale dans le message. Mais au-delà de ça, qui est un débat un peu, je dirais, théologique et historique, la question est de savoir si, dans l'histoire, les empires, et notamment les grands empires qui ont été les empires omeyyades et abbassides, c'est-à-dire l'empire omeyyade de 650 à 750 et l'empire abbasside de 750 à 1250, ont été ou non des empires dans lesquels il y avait, de fait, une séparation de l'Église et de l'État. Il y avait une forme de séparation, qui n'était pas forcément celle qui existait en Occident, mais qui en était très proche. Je cite l'universitaire britannique Sami Zubeda, qui a travaillé sur l'islam et l'État, et qui dit « Les califes devinrent essentiellement des rois terrestres et n'étaient des imams et des successeurs du prophète que par nom et titre et dans le fait qu'ils maintenaient l'hégémonie de la religion musulmane, imposaient et protégeaient formellement sa pratique. Pour les califes, les procédures gouvernementales étaient tirées des traditions pré-islamiques de la Perse et de Byzance. La source première de la législation résidait dans les décrets du souverain, même si en théorie, il ne devait pas contredire la charia. Certains taxes étaient définis par la charia, mais la plupart des formes de taxation n'entraient pas dans ce cadre. Dans la sphère étatique, la religion occupait une place à part, mais limitée et subordonnée. Les politiques au Proche-Orient étaient en pratique aussi islamiques que les politiques en Europe étaient chrétiennes. Même dans le domaine juridique, il y a une distinction qui allait s'établir, domaine juridique qui est censé, dans le monde musulman, être régi par la loi divine. Dans l'Empire abbasside aussi, les cadis étaient chargés, à travers les tribunaux, d'appliquer la loi, et ils ne devaient plus allégeance qu'à la seule loi de Dieu. Mais cela ne signifiait pas du tout que ces tribunaux allaient désormais gouverner le vaisseau et l'État islamique. Les dirigeants abbassides restèrent maîtres à bord, et les tribunaux de la charia n'atteignirent jamais cette position d'autorité judiciaire indépendante du contrôle politique, qui aurait pu fournir la seule base sûre et la garantie réelle d'application à l'idéal de la civitas dei. Les cadis étaient révocables par le pouvoir politique et leur autorité n'atteignait presque jamais la sphère politique. Donc, en fait, il y a dans l'empire abbasside, comme qui a été le grand empire musulman, deux domaines tout à fait séparés qui sont, un, le domaine de la loi personnelle qui est régie par la charia, et le domaine politique et le domaine de la loi essentielle qui n'est pas du tout régie par ces lois. Je montrerai qu'aujourd'hui, cela reste valable dans la plupart des pays du monde arabe et musulman. D'ailleurs, c'est une chose importante à souligner qu'au cours de l'histoire musulmane classique, les docteurs de la loi ont rarement affronté le pouvoir politique. Ils l'ont rarement contesté. Un des seuls épisodes qu'on connaît, qui se déroule aussi sous l'Empire abbasside, concernait une question religieuse, de savoir si le Coran a été créé ou incréé. Ça a été un débat très important dans l'islam. Et à ce moment, un religieux, Ibn Hanbal, s'est opposé directement à l'autorité du calife. Mais sinon, de manière générale, l'autorité religieuse était affirmé qu'il fallait suivre le souverain politique, quelle que soit sa politique, parce que si on s'opposait à lui, on risquait de créer une fetna, c'est-à-dire une division, et que la division était le pire de ce qui pouvait arriver à la Oumma musulmane. Et que donc, finalement, on devait prier derrière le calife, même si ce n'était pas un très bon calife, du moment qu'il n'était pas ouvertement hostile aux musulmans. Et de ce point de vue, la tradition dans l'islam comme dans le catholicisme durant tout le Moyen-Âge, c'est y compris d'accorder un caractère, une origine divine au pouvoir. Le Coran dit « Croyants, obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité ». Et il y a plusieurs hadiths dits de Mahomet qui le confirment. « Le sultan est l'ombre d'Allah sur terre, quiconque se révolte contre le calife se révolte contre Dieu ». Donc, il s'agit effectivement de respecter le pouvoir politique, y compris, et c'est dit textuellement, y compris quand ce pouvoir politique n'applique pas strictement la loi musulmane. Alors, on pourrait dire, bon, mais ça, c'est l'histoire, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, nous avons connu des évolutions importantes, etc. Je crois que non. Pour qui a voyagé dans la soixantaine de pays musulmans, ce qui frappe, c'est la diversité des systèmes politiques, des modes de vie et des cultures. L'islam aujourd'hui est la religion d'État dans des monarchies, dans des républiques qui se réclamaient du socialisme, dans des républiques qui se réclamaient du capitalisme. Et il a, je dirais, été la religion officielle dans toutes ces diverses formes étatiques sans que ça pose un problème majeur. Le philosophe syrien Saad Jalal el-Azm, qui est un défendeur convaincu de la laïcité, écrit « Dans les pays clés comme l'Égypte, l'Irak, la Syrie ou l'Algérie, il n'y a presque rien dans la société, l'économie, la politique, la culture et la loi qui soit géré en vertu des principes islamiques en conformité avec la charia ou qui fonctionne selon la doctrine et les enseignements théologiques. En dehors du domaine du statut personnel, de la foi individuelle et de la piété ou de l'impiété privée, le rôle de l'islam a incontestablement régressé jusqu'à la périphérie de la vie publique. Quiconque inspecte dans l'un de ces États les usines, les banques, les marchés, les corps d'officiers, les partis politiques, les appareils d'État, les écoles, les universités, les tribunaux, les arts et les médias doit se rendre à l'évidence, il ne subsiste que fort peu de religions en leur sein. Même en Arabie Saoudite, ça c'est pas lui qui le dit, il faut savoir que l'essentiel de la vie professionnelle, des affaires, fonctionne selon un droit qui n'est pas le droit musulman, et qui est un droit qui a été copié sur le droit suisse et sur le droit français. Et sur le droit français à travers l'Égypte. Donc, quand vous voyez les structures, je crois que c'est important de réfléchir à ce que Hazm dit, c'est-à-dire, quand vous voyez une armée dans le monde arabe ou musulman, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de... Je veux dire, ce qui fait qu'elle est une armée musulmane, c'est le fait que le vendredi, on va laisser les gens prier ou qu'on va leur servir des repas halal. Mais au-delà de ça, dans la stratégie, dans la tactique, dans le type d'organisation, il n'y a rien de musulman. Et puis, je voudrais dire aussi quelque chose d'autre qui me semble important à propos de deux exemples. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à penser que l'islam est une religion figée qui ne s'est jamais adaptée à la réalité. En 1950, en Égypte, il y avait un mouvement féministe très important qui est descendu dans la rue pour réclamer le droit de vote. Le mufti de l'Azhar a sorti une fatwa pour dire « c'est complètement contraire à la loi musulmane que les femmes aient le droit de vote ». Les femmes ne se sont pas laissées faire, elles ont dit « mais attendez, nous, femmes, nous avons le droit de vote en Syrie ». Elles se sont appuyées sur le mufti de Syrie pour dire « nous avons droit au vote ». En 1952, avec la révolution nassérienne, elles obtiennent le droit de vote. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus de pays musulmans en dehors de l'Arabie saoudite et pour un temps encore du Koweït où les femmes n'aient pas le droit de vote. Pourtant, c'est des... Encore une fois, ça a été condamné par plusieurs dignitaires religieux à certains moments au nom de la religion. Un autre exemple plus intéressant est celui de Roménie. Voilà un exemple, pourrait-on dire, en tous les cas dans l'imaginaire occidental, un exemple de théocratie. Quand Khomeini arrive au pouvoir, il se pose la question du contrôle des naissances. Le Shah avait développé une forme de contrôle des naissances et il y a eu, dans le pouvoir iranien, un consensus pour casser ce contrôle des naissances. Un consensus qui était d'ailleurs l'alliance de deux idéologies assez opposées. D'un côté, les religieux musulmans qui disaient que c'est contraire à l'islam. De l'autre, la gauche tiers-mondiste qui disait, à l'époque, vous vous souvenez, dans les années 70, le contrôle des naissances est un moyen des Occidentaux d'empêcher le tiers-monde de se développer. Donc, il fait une fatwa pour dire le contrôle des naissances est interdit. 10 ans après, il y a 15 millions d'Iraniens en plus et une situation ingérable. Et Khomeini fait une fatwa pour dire, au nom de l'islam, le contrôle des naissances est tout à fait légal. Je ne dis pas ça de manière péjorative, parce que finalement, je veux dire, dans toutes les idéologies, on sait que la capacité des idéologies à s'adapter aux évolutions, elle est très grande. Elle était grande elle est grande aussi dans l'islam. D'ailleurs, je rappelle que Khomeini, en 1988, donc quelques mois avant sa mort, a sorti une fatwa étonnante dans laquelle il dit « Mon pouvoir de prendre des décisions politiques n'est limité par rien ». Ni même la loi religieuse, ni même le Coran, rien. J'ai le droit, comme délégué, velayat et fakih, c'est-à-dire le représentant, si on peut dire, de l'imam caché, j'ai le droit de prendre toutes les décisions qui sont conformes à l'intérêt de l'État iranien. Donc, je dirais que, quand nous parlons, encore une fois, je reviens à la question que nous avons posée au départ, je vais terminer là-dessus, sur islam et laïcité, je dirais qu'on ne peut pas y répondre parce qu'elle est posée dans de mauvaises conditions. Je terminerai avec deux éléments appelés à approfondir, si vous voulez, la réflexion là-dessus. La première part d'une remarque de Maxime Renaisson qui disait « Je considère que la vie du monde qui professe la religion musulmane ne peut pas s'expliquer entièrement loin de là par la doctrine musulmane. » Et il dit d'ailleurs « J'applique ce principe aussi bien aux autres religions » que aux idéologies séculières, il visait le communisme. Je crois que c'est une chose très importante que toute l'histoire nous a appris. C'est-à-dire qu'il y a un discours officiel, il y a des idéologies officielles, et puis il y a chaque fois la réalité et la manière dont chaque idéologie s'applique à la réalité nationale. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 60 États à majorité musulmane. Quand vous voyagez en Indonésie, au Mali, en Arabie Saoudite, etc., vous voyez bien qu'il n'y a pas les mêmes formes de pouvoir politique, qu'il n'y a pas les mêmes formes de rapport à la religion, de la place de la religion dans la société, etc. Même s'il y a un phénomène qui est partout très fort, c'est-à-dire un maintien d'une religiosité très forte, contrairement à la France, mais qui existe aussi, contrairement à la France et à l'Europe, mais qui existe aussi aux États-Unis. Donc, je dirais que nous devons appliquer à l'étude des sociétés islamiques les mêmes règles que celles que nous appliquons à l'étude de toute société, la même rationalité, les mêmes méthodes historiques, sociologiques, etc. La question n'est pas, vous savez, on est toujours dans le débat islamophobie, islamophilie, est-ce que l'islam est une bonne religion, est-ce que l'islam est une mauvaise religion. Pour moi, c'est des questions qui n'ont pas de sens. Ce que j'essaye d'étudier comme journaliste, comme observateur, c'est la réalité des sociétés musulmanes telles qu'elles sont, et d'essayer de les analyser non pas avec des outils particuliers qui devraient s'appliquer au monde musulman, mais avec les outils, je dirais, créés par les sciences et la raison. L'autre chose importante, c'est pour mener à bien ces études, il faut le faire sereinement, et non dans un climat d'animosité, voire de haine. J'ai, en préparant cette intervention, je suis retombé sur un livre de Jean Bobéro et Valentine Zuber, qui est paru en 2000, qui s'appelait « Une haine oubliée, l'antiprotestantisme en France ». Et il citait un dénommé Georges Thibault, qui donnait une conférence à Paris. Et Georges Thibault, c'est pas une citation littéraire, hein, c'est une conférence réelle donnée à Paris, il disait « Pour avoir la clé de bien des énigmes historiques, politiques, religieuses, économiques, coloniales, diplomatiques, du passé comme du présent, il convient de se référer à cette notion générale, à savoir que les partis sont des religions et que les religions sont des races. Ils ne visent pas les juifs, mais les protestants, qui le sont, dit-il, en vertu d'une mentalité atavique, car la religion, dit-il, est d'abord un façonnage primitif du cerveau. » Je veux dire, en lisant ça, j'ai retrouvé, et je crois d'ailleurs que c'était l'objectif des auteurs, des choses qu'on peut lire aujourd'hui sur l'islam. Je crois qu'il faut aussi se départir de cette haine qui souvent d'ailleurs dit plus de choses sur la société qui en est porteuse que sur, et sur nous-mêmes en l'occurrence, que sur les gens que nous voulons étudier ou sur les phénomènes que nous voulons étudier. Merci.
C'était l'intervention d'Alain Grèche, rédacteur en chef du Monde diplomatique et spécialiste du Moyen-Orient, lors du troisième colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques pour le centenaire de la loi 1905, colloque organisé du 19 au 21 septembre 2005 à l'Institut de France. Nous avons donc choisi de vous faire écouter aujourd'hui les interventions consacrées à l'islam en France dans un contexte de laïcité, et puis aussi l'islam en Europe, puisque l'intégration des populations immigrées de religion musulmane est une question qui se pose dans plusieurs États membres. Sur ce sujet précisément, nous allons entendre l'allocution de Fouad Alaoui, secrétaire général de l'UIF, l'Union des organisations islamiques de France, également vice-président du Conseil français du culte musulman.
Tout d'abord, je tiens à remercier le président et le vice-président de l'Académie des sciences, morales et politiques, de m'avoir invité pour intervenir devant vous dans le cadre des célébrations du centenaire de la loi de séparation des églises et de l'État, celle du 7 décembre 1905. C'est vrai que j'interviens en ma qualité de vice-président du Conseil français du culte musulman, instance tellement jeune, donc avec ses erreurs et ses faiblesses de jeunesse. Mais je continue à penser que la parole musulmane ne peut s'incarner dans l'expression d'un individu. Aussi élevées soient ses fonctions représentatives. Aussi, ce que je vais essayer de présenter devant vous constitue une contribution humble et personnelle au thème débattu, tout en espérant que l'immense majorité des musulmans en France et surtout en Europe partageront l'essentiel des idées développées. Il faut voir que l'islam dans l'Union représente un peu plus de 14 millions de personnes, dont, selon les estimations les plus récentes, la grande majorité de ces 14 millions vit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Cette présence musulmane en Europe incarnait, il y a quelque temps, un islam que je qualifierais de discret. l'intérêt croissant au sujet de l'islam en Europe trouve son origine, à mon sens, dans sa visibilité. Sa visibilité croissante qui a surpris aussi bien les populations, les politiques et même les acteurs musulmans européens. L'erreur est de penser que cette visibilité est le résultat d'une œuvre organisée. En réalité, nous avons été tous surpris par ce retour massif à la pratique religieuse musulmane. Le vrai défi qui se présente actuellement pour les responsables musulmans au sein de l'Union européenne est d'encadrer cette pratique pour qu'elle soit conforme à la fois aux finalités de la religion musulmane et ses valeurs du juste milieu et aux exigences de la réalité européenne. Le défi est aussi pour l'ensemble de la société européenne qui est appelée à intégrer dans son propre métabolisme sociétal la dimension de cette présence musulmane, qui fait désormais partie de son propre corps et qui ne lui est plus étrangère. Il ne s'agit plus d'étrangers venus d'ailleurs et qui sont de confession musulmane, mais de citoyens européens qui aspirent simplement à vivre dignement et paisiblement à la fois leur citoyenneté et leur religiosité. Pourtant, ou bien partant de ceci, il est tout à fait légitime de dire que la construction de l'Europe est une construction avant tout citoyenne, de tous les citoyens. Chaque citoyen européen a le devoir d'y participer et a le droit d'y contribuer. Chacun selon son histoire, sa culture, ses convictions religieuses ou humanistes. Ainsi, vouloir disserter au sujet des musulmans et de la concertation et de la construction européenne revient de prime abord à définir avec exactitude les termes à utiliser. D'abord, qu'entendons-nous par musulman? Est-ce une dimension culturelle, ce qu'on appelle communément une population culturellement musulmane, ou bien une dimension religieuse identifiée par sa pratique religieuse? Je ne rejoins ni l'une ni l'autre de ces définitions. Par le terme musulman, j'entends toutes les personnes porteuses de la foi musulmane basées sur ces 5 fondements, à savoir croire en un Dieu unique qui n'a pas été engendré, qui n'a pas engendré. Croire en ses prophètes, tous ses prophètes, à commencer par notre père Adam, en passant notamment par Noé, Jacob, Moïse, Jésus, et enfin le sceau des prophètes Mohammed. Croire aux livres révélés aux prophètes, croire à l'existence des gens, et puis croire en l'existence d'un jour du jugement où chacun aura à rendre devant son Seigneur. De ce fait, c'est la foi qui est salvatrice et non la pratique. Personne n'a le droit de remettre en cause cette foi, une foi déclarée et assumée. L'adhésion à cette foi est un choix libre et personnel, basé essentiellement sur une relation intime entre l'homme et Dieu, sans aucun intermédiaire. Nulle contrainte en religion, comme le dit le Coran, ou bien avec une terminologie moderne, la liberté de conscience est garantie. Ainsi, et je le dis avec toute clarté, une lecture éclairée du texte coranique nous permet d'affirmer sans aucune hésitation que l'homme a sa pleine liberté d'embrasser cette religion comme il l'a pour la quitter. Le terme de construction européenne porte en lui-même une dimension de continuité et d'inachèvement. Qu'est-ce que l'Europe ? Est-ce un espace géographique ou un modèle de civilisation ? Une œuvre économique ou un projet politique ? Et comment articuler des destins hétérogènes pour engendrer une identité unique ? Telles sont quelques-unes des questions qui continuent de ponctuer sa construction. Il est avéré que la culture européenne plonge ses racines dans la civilisation gréco-romaine et a joué de la contribution du judaïsme et de l'islam. Mais elle a été marquée principalement par le sceau du christianisme pendant 2 millénaires. Il est hors question pour nous, musulmans d'Europe, de contester ce sceau, bien au contraire. Une autre question se pose, celle des limites de l'Union européenne, pour ne pas dire les limites de l'Europe. De là, on réfléchit tantôt dans la direction des limites physiques ou géographiques, tantôt dans la direction des limites culturelles ou historiques. Le 18 septembre 2004, avant d'être élu pape, celui qui n'était encore que le cardinal Joseph Ratzinger avait pris part au débat sur l'identité chrétienne de l'Europe, avait déclaré, je cite, « Historiquement et culturellement, la Turquie a peu de choses en commun avec l'Europe. Ce serait une grande erreur de l'incorporer à l'Union. Il vaudrait mieux que la Turquie joue un rôle de pont entre l'Europe et le monde arabe. La Turquie a un fondement islamique. Elle est très différente de l'Europe, qui est une collectivité d'États séculiers avec des fondements chrétiens. Or, le texte du projet de constitution européenne stipule « L'Union est fondée sur des valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme et la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre femmes et les hommes. » Je suis très attaché à cette phrase de François Lepargneur qui dit « La maturité humaine d'une société est très exactement reflétée par sa conduite à l'égard des minorités qu'elle englobe. » Le processus de la construction européenne a des dimensions multiples, économiques, politiques, sociales, identitaires et religieuses. Concernant les premières dimensions, économiques et politiques, les musulmans d'Europe pourront y apporter une énorme contribution. Non seulement par leur apport financier ou politique, mais essentiellement par des qualités puisées dans leur engagement religieux et spirituel, qui sont l'honnêteté, la droiture, l'équité. Ceci en un temps où ces qualités manquent tellement dans ces domaines, et où l'idée se répand de plus en plus que pour réussir dans les affaires et en politique, il faut faire abstraction de ces valeurs. En ces temps, il est devenu dangereux pour un homme politique de parler conformément à ses convictions, sans tenir compte du baromètre d'une prétendue opinion publique, car sa carrière en serait menacée. Quel paradoxe lorsqu'on sait que l'homme politique est un porte-parole du masse citoyenne. La dimension sociale de l'Europe est, à mon sens, un des défis majeurs de sa construction. L'Europe de demain, sans une dimension sociale affirmée, sera un grand gâchis. Quelle pourrait alors être la contribution des musulmans d'Europe dans ce domaine? Je suis convaincu que ceux-ci ont un devoir de cultiver et de véhiculer les valeurs de solidarité et d'entraide collective. Solidarité et entraide en faveur des plus démunis, entre les membres d'une même famille. Solidarité et entraide entre générations. A-t-on oublié la canicule de l'été 2003, où plusieurs milliers de nos aînés ont péri dans des centres de retraite et dans des endroits de solitude totale, loin de toute affection familiale? Pourrons-nous faire un semblant de ne rien voir devant le nombre croissant de SDF qu'on croise dans nos rues dans l'indifférence totale? Notre société a relégué à l'État et à ses services sociaux le soin de prendre en charge ces questions. Or, n'est-il pas aussi important qu'on cultive chez nos enfants, et notamment par l'intermédiaire des écoles, ces valeurs qui commencent à manquer cruellement en laissant place à un individualisme galopant qui détruira tout sur son passage, et en premier lieu ce qu'il y a de plus précieux chez l'homme, sa conscience et son humanisme? Or, un citoyen de confession musulmane faillit à l'essence de ses convictions religieuses, si celles-ci ne nourrissent pas en lui ses valeurs. Je cite un verset du Coran, « Nous vous nourrissons par amour de Dieu, nous ne cherchons auprès de vous ni récompense ni remerciement. » Être un bon musulman, c'est être un bon citoyen, restera toujours notre devise. Le but recherché est de permettre à l'individu l'intégration des références religieuses très fortes, tout en participant à la société. Les musulmans européens estiment que l'Europe leur permet d'être de bons musulmans. Au nom de leur foi, ils veulent s'engager socialement pour améliorer les choses, pour eux comme pour les autres. Et c'est à ce niveau que je voudrais aborder une autre dimension de cette construction européenne, la dimension religieuse. Il ne s'agit pas de savoir si l'Europe a une religion ou plusieurs, ou on n'en a pas. Il s'agit plutôt de mettre l'accent sur la nécessité d'être vigilant devant les tentatives d'exclure la religion de la société sous prétexte de préserver l'espace public de son influence. Permettez-moi de revenir à une période de l'histoire, pas très ancienne, de notre pays, où nos députés débattaient lors du printemps de 1906, 5 mois après avoir légiféré en faveur de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Le député, vous l'avez cité, Monsieur le Président, socialiste indépendant René Viviani, prononce le 8 mai à la Chambre des députés un discours qui est devenu célèbre. Il disait, ce jour-là, « Nous avons arraché les consciences humaines à la croyance. Lorsqu'un misérable fatigué du poids du jour ployait les genoux, nous l'avons relevé. Nous lui avons dit que, derrière les nuages, il n'y avait que des chimères. Ensemble, et d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus. Voilà notre œuvre révolutionnaire. Est-ce que vous croyez que l'œuvre est terminée ? Elle commence, au contraire. Elle bouillonne, elle nous déborde. » Heureusement, cette vision n'a pas triomphé et la raison l'a emporté. La loi de 1905 qui a été votée en France est, à mon sens, une loi d'un sage compromis qui a préservé l'essentiel en garantissant la liberté de conscience, la liberté de culte et la neutralité de l'État. Les musulmans d'Europe aspirent à vivre dignement et sereinement leur religion et sont convaincus que leur pratique religieuse favorise leur participation citoyenne et non le contraire. Leur inquiétude monte de jour en jour face aux amalgames qui touchent leur pratique religieuse. Et ce, chaque fois qu'un événement international survient portant atteinte à l'intégrité et à la sécurité de l'Europe. Inquiet aussi qu'ils se voient pris en tenaille entre une extrême minorité musulmane qui a sombré dans l'extrémisme ou le terrorisme et une campagne de certains médias et politiques qui en profitent pour alimenter le climat de peur et de crainte envers toute une composante nationale. Ceci, on l'a vu dans beaucoup de pays européens et surtout après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Quelle est alors l'alternative pour nous, musulmans d'Europe ? Pour moi, cette alternative se situe dans 2 directions, une externe et une interne. La première alternative externe doit être dirigée vers la communauté nationale au niveau de toute l'Europe. Elle doit s'orienter vers une présentation meilleure de notre religion et de ses valeurs d'ouverture et de tolérance. Ne laissons pas les extrêmes parler à notre place. La deuxième alternative interne doit être dirigée vers notre communauté de foi, les musulmans de la base. En islam, la connaissance précède l'action, elle l'oriente et le canalise. C'est la raison pour laquelle l'imam al-Bukhari consacra dans son recueil des hadiths authentiques un chapitre entier sous le nom « La nécessité de la connaissance avant toute parole ou action ». Celui-ci nécessite pour nous, responsables musulmans, de véhiculer une lecture de l'islam qui exprime son essence même, qui consiste à choisir le juste milieu dans le cadre des objectifs universels de cette religion. Un juste milieu qui bannit l'excès et le laxisme, qui concilie la guidance divine avec les lumières de la raison, de la connaissance et du savoir, qui respecte le juste équilibre entre le besoin matériel et les besoins spirituels de l'homme, et qui conçoit la vie comme un équilibre entre la recherche de l'au-delà et le bien-être d'ici-bas. Nous avons besoin d'une lecture des textes fondateurs de l'islam, à la lumière de ses finalités, de ses principes fondamentaux. D'ailleurs, la lecture littéraliste des textes a souvent tendance à restreindre ce que Dieu a voulu souple et vaste pour ses serviteurs, à compliquer ce qui est à la base simple et à figer ce qui est de nature à évoluer. De nos jours, le problème de certains spécialistes en sciences religieuses musulmanes, c'est qu'ils restent à la surface des textes. Ils sont incapables d'y déceler de nouveaux trésors. Ils s'attellent à leur sens littéral et délaissent les secrets qu'ils contiennent. Ils présentent l'islam de manière fragmentée et anarchique, comme si l'islam se composait d'une multitude de préceptes qui n'auraient aucun lien logique entre eux. Ils ne cernent pas les rapports qui lient telle prescription à telle autre. Ils établissent des relations entre des prérogatives qui ne peuvent être comparées. Ils prônent au nom de l'islam des principes auxquels il n'a jamais appelé. À cette période de notre histoire, les instances musulmanes européennes ont une grande responsabilité qui leur incombe. Il est de leur devoir de tout mettre en œuvre pour que les futures générations musulmanes européennes prennent conscience des enjeux existentiels auxquels ils seront confrontés. Certains concepts doivent être d'une clarté sans équivoque dans les esprits de nos enfants. L'Europe n'est pas une terre de guerre, ni une terre de conquête. Elle est leur terre natale et leur pays pour lequel il leur est demandé d'apporter soutien et bienveillance. Il est hors question de penser la pratique religieuse musulmane en Europe en faisant abstraction du nécessaire travail d'élaboration d'une jurisprudence pour la minorité musulmane qui tient compte de la spécificité européenne. Il est dévastateur pour nous musulmans d'Europe d'importer aveuglément certains avis issus d'écoles juridiques musulmanes et qui ont été élaborés pour une réalité qui n'est pas la nôtre. L'œuvre participative musulmane pour la construction européenne est une œuvre qui ne peut être exclusivement masculine. La femme musulmane européenne a toute sa place dans cette œuvre. Celle-là est actuellement sujette à deux injustices. Une première injustice émane d'une partie des musulmans eux-mêmes, qui font subir à la femme le poids d'un certain nombre de coutumes et de traditions qui n'ont aucun fondement dans la religion musulmane. La deuxième injustice émane de cette dynamique qui s'est installée ces dernières années dans quelques pays européens et qui vise à la priver de disposer d'elle-même et de vivre sereinement et dignement sa religiosité. S'il y a un seul islam dans ses fondements, il en existe plusieurs variétés dans son application. Le facteur culturel et social a un impact sur l'application de celui-ci pour les musulmans en Europe. Compte tenu de la capacité d'adaptation de l'islam et de sa capacité d'intégration des cultures européennes, la compatibilité de l'islam avec les valeurs qui ont fondé l'Europe ne doit pas faire l'objet d'un éternel débat. L'Europe est devant un tournant majeur de son histoire, alors qu'elle est en pleine construction. Elle a plus d'intérêt à bien intégrer sa population de confession musulmane, en intégrant paisiblement, sereinement et dignement la pratique culturelle de celle-ci. Et c'est ça la richesse de l'Europe et de son vivre ensemble. Et merci.
Fouad Alaoui, vice-président du Conseil français du culte musulman et secrétaire général de l'UIF, l'Union des organisations islamiques de France. Fouad Alaoui est intervenu lors du colloque sur le centenaire de la loi 1905 de séparation des églises et de l'État, un colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques, au cours duquel une petite trentaine de personnalités sont intervenues sur le thème de la singularité de la laïcité française, mais aussi de son rôle de modèle. Nous avons choisi aujourd'hui de vous faire entendre donc les interventions concernant l'islam et la laïcité, un thème développé par le rédacteur en chef du Monde diplomatique Alain Grech, et à l'instant, l'allocution de Fouad Alaoui, secrétaire général de l'UIF sur l'islam en Europe. En réponse, on pourrait dire, à ces deux interventions, voici le discours du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Nicolas Sarkozy. Son allocution fait évidemment écho à celui du vice-président du Conseil français du culte musulman, Fouad Alaoui, un conseil que le ministre de l'Intérieur a lui-même mis en place, puisqu'on connaît les velléités de Nicolas Sarkozy de réformer la loi 1905 dans un sens, selon lui, plus favorable à la minorité religieuse musulmane. On écoute ses arguments.
Mesdames et messieurs, je voudrais vous demander une première autorisation, celle de m'abstenir de lire le discours qui m'a été préparé. Je vous rassure, il est excellent, et ce qui a été dit, écrit dedans, au résumé, chacun y trouverait sa part de vérité. Discours fait pour ne gêner personne, et en conséquence, il ne me ferait pas reculer, mais il ne ferait pas avancer la question. Et si vous le permettez, je voudrais vous parler librement de ce que sont le cœur de mes convictions sur un sujet absolument essentiel pour la société française. Je voudrais donc que vous ne me teniez pas rigueur dans ce temple de la précision et de la rigueur des quelques approximations d'une parole libre, et que vous preniez cette parole libre comme un témoignage de respect à l'endroit de l'institution qui est la vôtre, et puis comme un témoignage de la volonté qui est la mienne d'apporter un peu d'authenticité dans un monde politique qui en a bien besoin. Et si nous, les responsables politiques, nous disions ce que nous pensons. Non pas en fonction de ce que nous croyons être l'état d'esprit de l'opinion, mais des convictions qui sont les nôtres. Et première remarque que je voudrais faire, elle touche à la nature de la loi. Et je suis assez fasciné par le fait qu'alors même que l'on change la Constitution tous les ans, voire plusieurs fois par an, il existe une école de pensée qui viendrait à dire que la loi de 1905 ne doit être touchée en rien et pour rien. Tant l'édifice est parfait. Ne touchons à rien. En quelque sorte, ne modifions pas les colonnes du temple sans savoir où se trouve le temple et s'il a des colonnes. La loi de 1905 est une bonne loi. Elle l'est devenue, plus exactement. Et cher André, je ne suis pas sûr qu'à l'origine elle était faite pour être une bonne loi. On peut même dire le contraire, puisqu'elle a été adoptée dans un climat de combat, alors que nous sommes un siècle plus tard dans un climat d'apaisement. Raison de plus d'ailleurs, André, pour considérer que ce climat d'apaisement tient davantage à la sagesse de nos compatriotes qu'au texte lui-même, qui fut à l'origine un texte de combat et qui est vécu aujourd'hui comme un texte d'apaisement. Ne lui faisons donc pas dire ce qu'il n'est pas. Ce serait une erreur, me semble-t-il, historique. Quand bien même d'ailleurs ce texte eût été parfait il y a un siècle, qui ne voit qu'en un siècle, la France a changé et que ce qui était parfait juridiquement peut parfaitement nécessiter des adaptations. Or, extraordinaire, le refus de même parler des adaptations nécessaires, pour les uns, par peur, qui n'est pas un sentiment illégitime, peur de réveiller des affrontements religieux, pour d'autres avec des arrière-pensées. J'y reviendrai. Mais je veux d'abord, en tant que ancien législateur, puisque j'ai quand même été élu député pour la première fois il y a... c'était en 1988, c'est pas hier. Je veux dire que les textes peuvent être adaptés sans que soit le moins du monde brisé le consensus autour d'eux ou l'état d'esprit qui a précédé à leur, inscription dans la réalité juridique française au moment où ils ont été votés. Réfléchir aux nécessaires adaptations d'un texte, ce n'est pas remettre en cause l'esprit du texte. J'ajoute que si le texte est si fort qu'on le dit, il peut supporter un toilettage. Ou alors il n'est pas si fort qu'on le dit. Soit il est incontournable, et dans ce cas-là, il est indestructible, soit il n'est pas si incontournable que ça, et dans ce cas-là, n'y touchons pas, sinon on fait écrouler la maison. Comme je pense que la loi de 1905 est un bon texte, un texte fondateur, un texte important, un texte solide, il n'y a aucun problème à en discuter de certaines des modalités d'application. Justement parce qu'il est fort, justement parce qu'il est équilibré. Dire ne pas y toucher en rien, c'est affecter le texte fondateur de 1905 d'une fragilité que je conteste. C'est une première remarque, mais comme je ne suis pas sûr que nombreux sont ceux qui défendront cette idée, j'ai tenu à la défendre moi-même, elle n'est pas paradoxale. Je voudrais faire une deuxième remarque qui me tient très à cœur et qui est au fond de mes convictions. Alors même que je précise, je ne suis pas un pratiquant régulier, je n'ai aucune leçon à donner à qui que cela soit, sur ce domaine spécialement, mais la question des religions m'intéresse. La question des religions est fondamentale. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme qui croit ? Ce n'est pas une petite question. C'est un homme ou une femme qui espère. Le droit à l'espérance est un droit essentiel pour l'être humain condamné à l'ignorance. La réflexion sur le sens de la vie et de la mort n'est pas du domaine de la République. La République s'occupe du temporel, les religions s'occupent du spirituel, la question spirituelle depuis que l'homme a conscience de son destin singulier, est une question essentielle. En quoi, mesdames et messieurs, le droit à l'espérance serait-il, si peu que cela soit, contraire à l'idéal républicain? La question mérite d'être posée. Je veux dire, pas simplement par rapport à la loi de 1905, simplement par rapport à la vie et à la mort. Quel sens donner à la vie? Et la mort, quelle place? S'interroger, comme chacun d'entre nous le fait lors de l'enterrement d'un de ses amis ou d'un membre de sa famille, sur le destin de l'homme, est-ce être un mauvais républicain? Se poser la question de savoir si la vie s'arrête avec la mort, est-ce remettre en cause les fondamentaux des idéaux républicains? Se poser ce genre de questions, n'est-ce pas naturel pour des hommes qui ignorent tout, de savoir si la vie est un hasard ou s'il y a un organisateur à tout cela? On a souvent sous-estimé l'importance de la question spirituelle dans le débat politique français. On a privilégié d'autres questions, la question sociale, importante, la question sociologique, importante, mais la question du sens de la vie n'est pas une petite question. Et les religions sont là pour aider l'homme à apporter une réponse. Et cette réponse, c'est le droit à l'espérance, au fond. Qu'est-ce que cherchent les hommes et les femmes qui croient? Totalement, partiellement ou de temps en temps? Est-ce que j'ai le droit à l'espérance? C'est pas rien. On peut même dire que c'est le droit de l'homme, peut-être le plus important. Espérer, devant la douleur de la perte d'un être cher, ou devant la propre interrogation et sa propre solitude. Que disent d'ailleurs les religions? Toutes les religions elles-mêmes. L'homme a le droit d'espérer. Et j'en viens à une troisième remarque. La loi de 1905 n'est pas une loi de prohibition. Elle est une loi de liberté. Capital de comprendre cela. Il y a quelques années, un ancien ministre, dont je ne citerai pas le nom, peu importe, au nom de la loi de 1905, s'était interdit de rentrer dans une église. Baliverne. Erreur totale, contresens parfait. Au nom de la loi de 1905, le ministre doit rentrer dans une église, dans une synagogue, dans un temple, dans une mosquée, à égalité de traitement pour les uns que pour les autres. Prétexter de la loi de 1905 pour refuser de rentrer dans un lieu de culte, c'est vraiment ne rien avoir compris de l'esprit de la laïcité à la française. Qu'est-ce que c'est que la laïcité à la française ? C'est une loi qui reconnaît un droit. Le droit de croire, de vivre sa foi et de le transmettre à ses enfants. C'est ça la laïcité à la française. Et le droit de ne pas croire. À égalité de traitement pour les uns comme pour les autres. Ce n'est pas une interdiction la laïcité à la française. D'ailleurs, si les religions étaient si peu importantes et si le droit de croire n'était pas quelque chose de considéré comme fondateur, alors pourquoi faire une loi ? Cette loi garantit un droit jugé fondamental, comme le droit de manifester, comme le droit de s'exprimer, le droit de croire, de vivre sa religion, de la pratiquer, de la transmettre à ses enfants. C'est ça la laïcité à la française. Et moi j'ai une vision de la laïcité, de la loi de 1905, comme une loi de liberté, qui a apaisé parce qu'elle a reconnu des droits, et parce qu'elle a organisé une séparation respectueuse entre l'État d'un côté qui s'occupe du temporel, les religions de l'autre qui s'occupent du spirituel. Et je n'ai pas cette vision de combat d'une laïcité sectaire qui viendrait expliquer que la loi de 1905 est censée protéger la société civile de la mainmise des religions sur elle. Pauvres religions. Elles n'en ont ni la force, ni l'ambition. Et faut-il mal connaître les religions en France pour penser, si peu que ce soit, qu'il y a une menace d'un pouvoir religieux sur la société française. J'ajoute, parce que ça me tient à cœur, qu'était la France profonde au début du siècle précédent? C'était la France des campagnes. Qu'est-ce que c'est que la France profonde au début du XXIe siècle? c'est la France des banlieues. Je veux dire que la France profonde, c'est la France où les Français habitent. Ils habitaient dans les campagnes, il y a un siècle, ils habitent dans les banlieues aujourd'hui. Quelle est la différence? Il y a un siècle dans nos campagnes, il y avait les instituteurs, travail remarquable, puis il y avait le curé. Et dans les familles, même où on ne croyait pas, on allait à la communale, puis après on allait au catéchisme. Et on vous donnait quelques éléments sur ce qu'était le bien et ce qu'était le mal. Oh, on se disait, c'est pas sûr que ça marche, mais ça servira peut-être à quelque chose. Et je veux dire que la religion catholique a joué un rôle dans l'enracinement des sentiments républicains de la France du début du XXe siècle. Au sens où elle a contribué aux côtés de la communale, aux côtés des instituteurs, à créer des citoyens conscients des enjeux et sachant distinguer le bien du mal, en tout cas avec une morale qui n'était pas toujours à dominante religieuse, mais qui faisait que vaille, dans toutes les familles, on vous donnait un certain nombre de règles, dont vous faisiez des règles de vie pour votre vie durant. Et dans ce climat d'affrontement, peut-être même que sans le savoir, l'instituteur et le curé dans les villages faisaient un travail commun au service de l'émergence d'une génération de citoyens. Peut-être que c'est une vision heureuse de l'histoire de mon pays. Mais enfin, tout ceci avait un sens. Et si vous regardez un siècle plus tard, ce que sont devenus certains de nos quartiers, qu'est-ce qui frappe? Ils sont devenus des déserts. Déserts culturels, déserts cultuels, déserts au niveau de la mise en place de services publics, ne reste qu'une institution, la télévision. Alors là, on est tranquille. De ce côté-là, on est sûr qu'on ne sera pas déçu. Et comment ne pas s'interroger quand on voit certains jeunes perdus considérer la vie, comme un bien de consommation, qui n'a pas plus de sens qu'un autre? Comment ne pas être frappé de voir que l'unicité de la vie et le respect qu'on lui doit a disparu d'un certain nombre de nos quartiers abandonnés? Pourquoi? Parce qu'on ne parle plus de la vie, de son sens, de sa fragilité, du respect qu'on lui doit, du fait que ce n'est pas un bien comme les autres. Et pourquoi? Peut-être parce que les lieux de rencontre, les lieux d'échange, les lieux d'apaisement, les lieux où on explique que la vie, ça va au-delà, ça ne nous appartient pas, et c'est respectable, on disparaît. Parce qu'il y a toujours l'instituteur, qui fait d'ailleurs un travail remarquable, mais souvent il est seul. Parce que des lieux de lumière, au sens des lieux de rencontre, il y en a si peu. Et je ne suis pas sûr que de ce point de vue, Monsieur le Président, cela marque un grand progrès de notre société. Et voyez-vous cette idée paradoxale qui est la mienne? Je ne vois pas les religions comme l'adversaire de la société d'aujourd'hui. Je ne vois pas les religions comme une menace. Je les vois plutôt comme un facteur d'apaisement. En ce sens qu'elles expliquent que l'espérance, ça existe. Et que ce qu'on fait dans la vie, ça compte. J'admets bien volontiers que cette vision est une vision originale, je n'oserais pas, mais enfin, disons qu'elle est rarement défendue. Je me demande encore pourquoi. Car on confond les religions et l'extrémisme. On confond le fondamentalisme et l'intégrisme. Et on veut jeter, selon l'expression populaire, le bébé avec l'eau du bain. Parce que quelque part dans le monde, il existe des intégrismes et de l'intégrisme. On voudrait salir l'ensemble des religions. J'affirme qu'à l'intérieur de la République, et c'est bien pour ça qu'il y a une laïcité à la française, le droit de croire et les religions ont un rôle à jouer et un rôle d'apaisement. Alors, c'est curieux que je le dise, moi-même au service d'aucune église, même si culturellement j'appartiens à l'Église catholique de France. Et même si je ne suis pas un pratiquant, mais parfois je suis même inquiet, je le dis aux représentants des églises, de voir que même ont tant de mal à faire entendre leur voix. Pas toujours parce qu'on ne les écoute pas, parfois parce qu'eux-mêmes parlent trop bas. Pourquoi parlent-ils si bas? Parce qu'ils ont été tellement attaqués qu'ils pensent que le dicton populaire « vivons heureux, vivons cachés » est parfois le bon. Et puis, il y a eu un changement considérable. Excusez du peu. La France du début du XXe siècle, la France de 1905, était catholique. Elle l'était culturellement, elle l'était culturellement. On peut même dire d'une certaine façon qu'elle l'était politiquement. Eh bien, la France de 2005, elle n'est pas catholique. Elle est majoritairement catholique, mais elle est multiple. Et ça, c'est une nouveauté considérable. Et lorsqu'on me dit « ne touchons pas la loi de 1905 », ah bon ? Parce que la France de 2005, c'est la même que la France de 1905. Toute petite différence, en un siècle, se trouve en métropole 5 millions de musulmans français. Qui n'existaient pas en 1905. Doit-on considérer que les dernières arrivées, que la dernière religion de France, la seconde par le nombre, doit s'adapter à la loi de 1905 et que nous, nous ne devons pas considérer qu'il y a une spécificité. Quelle spécificité? C'est que les musulmans de France pratiquants ont moins de moyens que n'en avaient les catholiques de France, les protestants de France ou les juifs de France. Il y a des raisons historiques à cela. Ils sont les fils et les petits-fils de ceux qui sont venus construire nos routes ou fabriquer nos voitures. Cette communauté-là, au sens communauté culturelle, a moins de moyens. Comme elle n'a pas de moyens et qu'on ne lui en donne pas, elle doit se tourner vers l'étranger, dont l'influence est catastrophique. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire, Monsieur le Président? Tout simple, faire émerger un islam de France parce que je refuse l'islam en France. C'est pas une petite différence, ça. C'est pas un petit enjeu, c'est un enjeu considérable. Et ça repose sur une conviction maintes fois affirmée de ma part, et peut-être dans cette académie, y trouvera-t-elle un certain écho, une identité humiliée, c'est une identité radicalisée. Reconnaître des droits pour pouvoir imposer des devoirs. N'est-ce pas le message de la République? Mais quels sont les droits lorsque les imams viennent à 95% de l'étranger parce qu'il n'y a pas de formation d'imam en France? Quels sont les droits lorsque pour édifier une mosquée, il faut dépendre du financement de l'étranger? Quels sont les droits lorsque les problèmes que nous avons viennent des caves et des garages avec des lieux de culte illicites? J'ai voulu donner aux musulmans de France une instance représentative. Oh, ça n'a pas été simple. Y compris certains dirigeants de certaines religions m'en ont voulu. J'ai toujours pas compris de quoi. Enfin, pour certains, il paraît que j'avais été trop autoritaire. Honnêtement, un peu d'autorité dans notre société, c'est si rare. Qu'on me laisse cette originalité. Sur le créneau, on n'est pas si nombreux que ça. J'ajoute que si j'avais pas fait preuve d'une certaine, disons, d'un certain volontarisme, mais chacun sait que ça ne se serait pas fait, qu'il n'y aurait pas de CFCM et qu'il n'y aurait pas de CRCM. Ne soyons pas hypocrites les uns et les autres. Ça s'est fait parce que je l'ai profondément voulu, parce que j'ai imposé cette unité et parce que les musulmans de France ont été au rendez-vous. C'est vrai qu'on a passé 48 heures enfermés à Nainville-les-Roches. Eh bien, ça valait le coup. Aujourd'hui, personne ne conteste l'utilité du CFCM. Ah, on aimait parler de l'instance représentative des musulmans de France quand elle n'existait pas. Maintenant qu'elle existe, tout le monde la reconnaît comme incontournable. Mais au moment de sa naissance, chacun avait son idée sur ce qu'il fallait que je ne fasse pas, un peu moins sur ce qu'il fallait faire. Nous avons été nombreux à travailler sur le sujet. Je crois que ça a commencé avec vous, monsieur le ministre Jox. Et vous savez, autant que les autres, que ce n'était pas si facile que cela. Et puis alors, il y a eu la composition de l'instance. Formidable. On m'a dit oui, pour une instance représentative des musulmans de France. mais pas n'importe lesquels. C'est-à-dire ceux qui me reprochaient de faire preuve de trop d'autorité, me demandaient de distinguer, à l'intérieur de cette instance, ceux qui avaient le droit d'y être et ceux qui n'avaient pas le droit d'y être. Alors il faut savoir, est-ce que j'en faisais trop ou pas assez? J'ai même été jusqu'à me voir reprocher, très grande imminence de l'Église catholique, de vouloir instaurer une religion d'État. Tout le contraire. À partir du moment où il était reconnu qu'en France, il y avait plusieurs religions, par définition, il n'y avait pas de religion d'État. Il ne peut y avoir une religion d'État que s'il n'y en a qu'une, pas plusieurs. La diversité, Monsieur le Président, c'est bien le gage de la liberté. Et j'ai voulu qu'il y ait tout le monde dans cette instance. Et je ne l'ai pas regretté. Et d'ailleurs, c'est l'occasion peut-être qui m'est donnée de dire un mot d'un sujet qui me passionne. Quelle est la différence entre l'intégrisme et le fondamentalisme? Les mots s'entrechoquent. Et ici, dans ce temple de la précision et de la culture, au moins peut-on s'amuser à en parler. Quelqu'un qui croit, naturellement qui croit fondamentalement. Et plus il croit fondamentalement, plus sa foi est renforcée. Il ne croit pas de temps en temps. L'engagement fondamental qui amènerait un catholique à aller communier tous les matins, je ne vois pas en quoi il met en cause la République. Cet engagement fondamental ne devient intégriste que quand il est plaqué sur la réalité de l'autre, quand il n'est pas respectueux de la liberté de l'autre. C'est à ce moment-là qu'il devient dangereux et qu'il doit être combattu. Et j'ai voulu qu'il y ait l'ensemble des représentants du monde culturel musulman, y compris l'UOIF, cher Fouad, et je ne l'ai jamais regretté. L'UOIF a toujours respecté sa parole, partisan d'un islam plus épicé. Et la place de l'UOIF était à l'intérieur de cette instance où elle a apporté, l'UOIF, sa représentativité, sans jamais trahir l'esprit de l'instance. Si l'UOIF avait refusé d'y participer ou était parti, c'est la représentativité du CFCM qui se serait trouvée engagée. Et dans les banlieues, on aurait fait alors de l'UOIF des martyrs et du CFCM une coquille à moitié pleine. Je ne l'ai pas voulu. Et j'ai assumé cette responsabilité. J'ajoute d'ailleurs que tous ceux qui sont partisans du dialogue entre les religions et qui ont raison, j'aimerais qu'ils m'expliquent comment on dialogue quand la deuxième religion de France, par le nombre de ses fidèles, n'a pas d'instance pour dialoguer. Vous dialoguez avec qui? Et cher Roger, tu sais combien j'étais heureux quand le CRIF a pris l'initiative de dialoguer avec le CFCM et avec l'UOIF. Ce n'est pas rien dans la France aujourd'hui. Et quand je participe au dîner des CRIF régionaux et que je vois les présidents systématiquement des CRCM invités, je me dis quelque chose a progressé quand même dans la République française. On a fait avancer les choses. Mais il me semble qu'il faut aller encore plus loin. Et cesser l'hypocrisie. Quelle hypocrisie? Dire qu'il faut séparer l'islam de France des influences étrangères. Oui, mille fois oui. Alors, donnez-leur les moyens de gagner leur indépendance. Je n'ai pas le sentiment qu'en Alsace, on soit moins en République, cher Premier ministre, alors que les règles ne sont pas les mêmes. A-t-on le sentiment de changer de régime lorsqu'on passe de la Lorraine à l'Alsace? Ici, quelqu'un viendrait-il me dire qu'en Alsace, on est moins en République, moins en démocratie? Je n'ai pas plaidé pour une réforme fondamentale de la loi de 1905. Je dis qu'il existe un institut rabbinique de formation des rabbins de France, à Paris. C'est bien ça. Eh bien, je préfère que les rabbins de France soient formés à Paris plutôt qu'à Tel Aviv ou à Jérusalem. Eh bien, il en va de même pour les imams. Je préfère qu'il y ait un jour un institut de formation des imams de France qui parle français, qui soit formé dans nos universités, qui connaissent nos valeurs, plutôt qu'être obligé de demander au gouvernement algérien, au gouvernement tunisien, au gouvernement marocain de nous envoyer des imams, qui ne parlent pas un mot de français, et qui ne sont pas pétris de la culture et de la tradition française. La loi de 1905, c'est encore une ambition plus éloignée. Je le dis comme je le pense, la fondation qui a été créée par Dominique de Villepin est un premier pas, sans doute utile. Je souhaite que les maires, les conseils municipaux, puissent jouer, pour les lieux de culte, un rôle plus important. Parce qu'un lieu de culte, je veux dire dans l'association qui le gère, où se trouve un élu, quelle que soit sa couleur politique, on sait alors ce qui s'y passe et on évite toutes les influences étrangères. Voilà tracé le tableau. Une bonne loi, la loi de 1905, qui l'est devenue plus qu'elle ne l'a été. Et j'aimerais que ce point, au moins, soit acté au moment de cet anniversaire. Tout le monde ne se bonifie pas avec les années. Enfin, je vise personne, si ce n'est moi, naturellement. Enfin, j'ai encore avoir des ennuis. Mais cette loi s'est bonifiée. Et c'est incontestable. Une bonne loi. Mais une bonne loi ne va pas dire une loi figée. Parce que figer une loi, c'est la faire vieillir. C'est la démoder. Une loi doit pouvoir être adaptée. On garde les fondamentaux et on l'adapte. Une France qui a changé, qui est devenue une France multiple. Et il faut dire aux Français, vous n'avez pas à avoir peur de cette diversité. Elle est une richesse. Et si on reconnaît que le droit de croire est un droit absolu, alors pourquoi le reconnaître aux uns et le contester aux autres ? Des religions qui doivent devenir des religions de France et des religions qui doivent apprendre à se parler entre elles. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Et voilà pourquoi ce sujet m'a passionné et me passionne. Et ces trois dernières années ont vu un progrès considérable pour la place des religions et pour la place de l'islam de France. Jamais peut-être, et je voudrais terminer par cela, un ministre de l'Intérieur ne s'est senti autant ministre des cultes. Eh bien, moi, c'est une responsabilité que je revendique. Elle est une fierté. Elle est un sujet d'intérêt, voire un sujet de passion. Parce que les hommes de foi qui m'étaient donnés de rencontrer m'ont enrichi de leur expérience. Je ne plaide pas pour une église, quelle qu'elle soit. Je ne plaide même pas pour ceux qui croient. Je plaide pour l'utilité et l'intérêt de stabiliser la place des religions dans notre pays. Je vous remercie.
C'était Nicolas Sarkozy, ministre d'État et ministre des Cultes, lors du troisième colloque sur la loi 1905, organisé du 19 au 21 septembre 2005 à l'Institut de France. Une intervention qui était placée en ouverture du colloque, mais que nous avons choisi de vous faire écouter après les allocutions d'Alain Grèche, rédacteur en chef du Monde diplomatique, et Fouad El Haoui, secrétaire général de l'UIF. Nicolas Sarkozy est en effet un partisan d'une réforme de la loi 1905, notamment en réponse aux demandes de la communauté musulmane en France. Voilà pourquoi donc nous avons bouleversé un petit peu l'ordre d'intervention du colloque. Vous avez entendu aujourd'hui les allocutions qui concernaient l'islam dans une laïcité française, européenne et dans le monde musulman. La semaine prochaine, vous entendrez une série d'interventions sur l'Europe et la laïcité française au regard des institutions européennes. Merci d'avoir écouté cette série d'allocutions sur l'islam et bonne écoute de nos programmes sur Canal Académie.